Et vous qui restez là, vous pouvez ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Les 2, 3, peut-être 4 prochaines et dernières fois que je vais prêcher ici avant qu'on déménage, j'ai décidé d'arrêter de regarder à l'Exode pour qu'on regarde ensemble le début de l'épître aux Éphésiens. Et donc on va regarder les 14 premiers versets ensemble ce matin. Et juste avant de lire ce passage, je vous invite à la prière encore. Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses toi le silence dans nos esprits. Tu vois, comme nous avons de la peine à le faire, nos pensées sont partout. Et nous te prions que tu les rassembles et que tu les diriges vers toi. Que tu nous donnes un cœur humble pour nous soumettre à ta parole et pour l'écouter humblement et chercher à savoir comment elle doit se mettre en pratique dans notre vie, dans la semaine qui commence. Nous te prions ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ces mots, Paul les a prononcés alors qu'il était en prison, probablement à Rome, vers l'année 60-62 après Jésus-Christ. Il n'était pas dans une cellule, mais en tout cas dans une résidence surveillée, c'est ce qu'on apprend à la fin du livre des Actes, acte 28. Est-ce qu'il était enchaîné à un soldat en romain en permanence? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait perdu sa liberté. Il était abandonné par beaucoup. Il était en fin de vie. Et pourtant, il dit: j'ai tout, tout ce dont mon cœur a besoin. Dieu me l'a donné. Dieu m'a tout donné. J'ai besoin de rien d'autre. Je me demande si nous en dirions autant, si on réfléchit à la semaine qui s'est écoulée, est-ce que nous pourrions en dire autant, ou est-ce qu'on doit admettre que bien souvent on a été insatisfait de ce que Dieu nous donne, inquiet des choses qu'on espère avoir, qu'on espère obtenir, on n'est pas sûr de les obtenir, frustré, vite frustré lorsque les choses ne se passent pas comme on espère. Paul nous dit: vous qui êtes chrétiens, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et combien c'est important qu'il nous dise ça au début de l'épître aux Éphésiens, parce que Dans la suite de l'épître aux Éphésiens, vous vous rappelez peut-être chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, il va nous parler de tous les domaines de la vie chrétienne, la vie d'église, la vie de famille, la vie de couple, la lutte spirituelle, la vie de travail, etc. Et il nous dit, vous avez toutes les ressources pour vivre à la gloire de Dieu dans tous ces domaines. Tout ce qu'il vous faut, c'est venir puiser dans ces ressources-là. Et il part dans ce qui est en fait une seule et longue phrase, c'est verset 3 à 14, c'est une seule et longue phrase. Paul est tellement excité de nous dire tout ce qu'on a en Christ qu'il prend même pas le temps de s'arrêter pour prendre sa respiration. Voilà Paul qui est enfermé, son corps probablement enchaîné, mais son cœur, son esprit sont en train de parcourir l'éternité, d'une éternité à l'autre. Vous avez remarqué ça? Regardez au verset 4. Il commence avant la fondation du monde, et puis il scrute, on pourrait dire, les actes bienveillants de Dieu dans l'histoire, il scrute les temps, comme il les appelle, jusqu'à verset 10, que les temps soient accomplis, d'une éternité à l'autre. Et c'est ce qu'on va faire. Et il liste comme ça, d'une éternité à l'autre, il liste toutes les bénédictions, en tout cas quelques-unes des bénédictions qu'on a, que Dieu nous donne en Christ. Élection, adoption, rédemption, réconciliation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ce qu'on va faire, avant de faire comme Paul, on va voir donc comment Dieu nous a bénis dans l'éternité passée, comment est-ce qu'il nous a bénis dans l'histoire, et comment est-ce qu'il s'apprête à nous bénir dans l'éternité à venir. Avant de faire ça, je vais vous donner mes trois points dans un instant. Il faut juste qu'on regarde, qu'on s'arrête sur ce qui est la chose la plus importante à retenir de ces versets. En fait, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ces versets, c'est ce que je vais dire maintenant. Après, à la limite, vous pouvez décrocher. Ok, il faut suivre là juste les 2-3 minutes qui viennent. Vous êtes prêts? Ces bénédictions que je viens d'énumérer, donc élection, adoption, on les verra tout à l'heure, mais je les ai déjà énumérées une fois. Toutes ces bénédictions, Paul nous dit, Dieu nous les accorde en Christ. Regardez le verset « en lui », verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Verset 11. « En lui, nous avons aussi été mis à part. » Verset 13. « En lui, vous aussi, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » C'est en lui, c'est en Christ. Ce que ça signifie, c'est que toutes ces bénédictions que j'ai énumérées, elles ne sont pas éparpillées les unes les autres, comme si on pouvait être pardonné sans avoir été élu, ou avoir été élu sans être pardonné, ou pire, être un peu pardonné, mais pas complètement. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que si vous n'êtes pas en Christ, et c'est peut-être votre cas, aucune de ces bénédictions n'est à vous. Et on va voir dans un instant comment elles peuvent devenir pour les vôtres, on va le voir plus tard. Mais si vous n'êtes pas en Christ, ces bénédictions ne sont pas pour vous. Mais si vous êtes en Christ, toutes ces bénédictions sont pleinement à vous. C'est ce qu'on voit très clairement au verset 3. Regardez le verset 3 avec moi. C'est vraiment le verset clé. C'est un peu le titre de toute la section. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On a le Père, on a le Fils, vous avez remarqué, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi est-ce qu'elles sont spirituelles? C'est parce qu'elles nous sont communiquées par l'Esprit. Okay, donc on a le Père, on a le Fils, on a l'Esprit. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est ça, regardez. Il nous dit, le Père, c'est la source de toutes ces bénédictions, comme une fontaine qui déborde d'amour, et cet amour, tout cet amour, il le répand sur son Fils, bien-aimé, et l'Esprit, par la foi, l'Esprit nous unit à Christ. C'est comme s'il nous faisait entrer dans la salle des trésors. Une fois qu'on est entré dans la salle des trésors, tous les trésors sont à nous. L'or, l'argent, les pierres précieuses. C'est comme s'il nous faisait asseoir à la table d'un festin. Vous êtes assis à la table, tous les plats qui sont sur la table sont pour vous. Ils sont là pour que vous puissiez les goûter. Tous, si vous êtes chrétien, tout ce qui est à Christ est à vous et rien de ce qui est à Christ ne vous est refusé. Est-ce qu'il nous arrive de prendre le temps de méditer sur ce que ça veut dire pour nous qui sommes chrétiens? Les théologiens à travers l'histoire se sont parfois posé une question qui semble un peu spéculative, mais qui est en fait assez importante à se poser pour nous. Ils se demandent, mais finalement, qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde, vu qu'on parle de la fondation du monde ici. Qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'il ait créé le monde, dans l'éternité? Et ça peut sembler être une question un peu spéculative, mais on sait la réponse en fait. En Jean 17, Jésus prie son Père et il dit: avant la fondation du monde, tu m'as aimé. Toute éternité, Dieu aime. Le Père aime son Fils. Et si vous êtes en Christ, c'est cet amour-là, un amour éternel, un amour infini que le Père a pour vous. Quelqu'un a dit un jour que la plus grande tristesse, en parlant des chrétiens, la plus grande tristesse ou le plus grand fardeau dont tu peux charger le Père, la plus grande cruauté envers lui, c'est de ne pas croire qu'il t'aime. Et c'est pas, je sais pas quel mystique qui a dit ça, c'est en fait John Owen, qui est un des plus grands théologiens réformés du monde anglophone. Et je crois qu'il a vraiment raison. Réfléchissez, si on est en Christ, si on est dans le Fils, la plus grande tristesse qu'on peut causer au Père, la plus grande cruauté qu'on peut avoir à son égard, c'est de ne pas croire qu'il nous aime, de cet amour infini, éternel qu'il a pour son Fils. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est à Christ est à nous pleinement maintenant. Okay? Pour reprendre l'image du festin que j'ai dit tout à l'heure, par l'Esprit, Dieu nous unit à Christ, c'est comme s'il nous est asseoir à sa table, mais il nous faudra toute l'éternité pour goûter à tous les plats délicieux qui sont sur la table. Okay? Il va nous falloir toute l'éternité pour goûter combien Dieu est bon et pour savourer tous ses bienfaits. Et c'est pour ça que, en fait, la suite et la fin du chapitre 1, c'est une prière de Paul pour les Éphésiens, où il prie simplement pour que les Éphésiens puissent goûter toujours plus ses bienfaits, pour qu'ils viennent puiser dans ces ressources-là pour mener la vie chrétienne dont il va parler dans la suite de l'épître. Mais tout ce qui est au Fils est à nous. Si vous êtes chrétien, tout ce qui est au Fils est à vous, et rien de ce qui est au Fils ne vous est refusé. Ça, c'est la chose que je voulais qu'il soit clair depuis le départ. C'est la chose qu'il fallait entendre. Maintenant, je vous propose qu'on regarde juste à ces bénédictions un peu plus en détail. Je ne vais pas les prendre une à une, élection, adoption, rédemption. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce que je vais faire, c'est, comme Paul, je vous ai dit, passe d'une éternité à l'autre en regardant ce que Dieu a fait dans l'histoire, j'aurai trois points. Tout d'abord, l'élection inconditionnelle de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous bénir dans l'éternité passée, c'est les versets 4 à 6. Deuxièmement, la grâce irrésistible de Dieu, que Dieu a manifesté dans l'histoire, les versets 6 à 10. Et troisièmement, l'héritage incorruptible de Dieu en Christ, ou comment Dieu s'apprête à nous bénir dans l'éternité à venir, c'est les versets 11 à 14. Je dis juste avant de commencer le premier point, c'est un tout petit peu artificiel comme découpage. Certaines personnes ont. Je vous dis, c'est une longue phrase de Paul. Okay? Il ne s'arrête pas, il ne prend pas son souffle. Certains ont parlé de ce passage comme une espèce de longue chaîne avec des maillons qui se tiennent les uns les autres, ou une boule de neige qui dévale une pente et qui augmente toujours plus, qui devient toujours plus grande. Il n'y a pas d'interruption, et donc c'est un tout petit peu artificiel de couper. Vous allez voir. Ça suit quoi, c'est difficile de s'arrêter comme ça, mais je pense que ce sera plus facile pour nous de comprendre si on le fait en trois parties. Premièrement, donc, l'élection inconditionnelle de Dieu, c'est la première bénédiction, versets 4 à 6, et je vous invite à ce qu'on les relise ensemble. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Dieu nous bénit tout d'abord en nous choisissant pour être ses enfants. Imaginez un jeune couple qui attend son premier enfant. Ce sera plus facile pour certains d'entre nous que pour d'autres. Si vous avez eu des enfants, essayez de vous rappeler comment c'était quand vous attendiez vos enfants. Avant qu'ils soient nés, avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit pour s'attirer votre amour, vous les aimiez déjà. Vous avez peut-être préparé la chambre, vous avez peut-être emballé des cadeaux qui étaient là tout prêts pour la naissance. Ici, c'est un peu pareil, c'est comme si Paul déballait le paquet cadeau des bénédictions que Dieu nous donne en Christ. Et au fur et à mesure qu'il déballe ces bénédictions, ça devient de plus en plus clair que il parle d'un plan que Dieu avait avant notre naissance. Dieu avait commencé à emballer ses bénédictions en Christ, et il avait Il a inscrit le nom de chacun d'entre nous qui lui appartenons sur l'emballage avant même la fondation du monde. Avant notre naissance, avant la création du monde même, Dieu nous a choisis dans son amour. Ce qui montre bien que le salut est entièrement par grâce. Avant que nous ayons pu faire quoi que ce soit pour mériter son amour, pour nous attirer sa faveur, Dieu nous a choisis. Alors, si vous vous dites peut-être en regardant votre expérience personnelle, mais est-ce que c'est pas moi qui ai choisi Dieu en venant à Christ? Dieu vous dit dans ce passage, dans un sens oui, mais uniquement parce que moi je vous ai choisi d'abord. Si vous dites, mais est-ce que c'est pas moi qui me suis décidé pour Christ? Dieu vous dit, dans un sens oui, mais uniquement parce que moi je me suis d'abord décidé pour toi. Dieu nous a choisis et c'est lui qui a tout fait pour que nous venions à lui. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart d'entre vous le connaîtront, mais Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais. C'est toujours bien de le citer parce qu'il a en général des manières assez frappantes de dire les choses, et en général assez drôles aussi. Donc là, il dit quelque chose par rapport à l'élection que je voulais vous donner. C'est un peu sur le ton de la plaisanterie qu'il le dit, vous allez voir pourquoi, mais je pense qu'il dit quelque chose de vraiment important. Il écrit « Heureusement que Dieu m'a choisi, car je ne l'aurais jamais choisi. » Et heureusement qu'il m'a choisi avant que je sois né, car il ne m'aurait certainement pas choisi après. Et je dis que c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, parce que vous avez compris, Dieu ne m'a pas choisi, et puis après il s'est rendu compte, non, je me suis trompé, il est pécheur. Donc il m'a choisi, il savait que j'allais être dans le péché, il savait que j'allais vivre dans le péché, il m'a choisi quand même. Mais ce que Charles Spurgeon est en train de dire, c'est qu'il n'y a rien en nous qui justifie ce choix. Alors c'est sûr que la doctrine de l'élection, elle soulève tout un nombre de questions auxquelles on aurait bien avoir des réponses, et la Bible n'en donne pas toujours. Comment est-ce que Dieu peut offrir son salut librement à tous, et n'en choisir que certains? C'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication qu'on puisse donner. Il y en a. Et je ne vais, pas en donner maintenant. Mais simplement, ce qu'on doit reconnaître, c'est que certaines personnes partent dans des longues spéculations sur ce sujet-là, et ce n'est pas du tout ce qu'on doit faire. Il y a un moment où on doit reconnaître que, pour notre esprit humain, ça reste un mystère. Ça reste un mystère, mais ça ne doit pas devenir une excuse. Ça ne doit pas devenir une excuse. Je ne sais pas si c'est vous, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, j'en connais des gens comme ça, qui prennent la doctrine de l'élection comme un prétexte ou une excuse pour ne pas venir à Christ. Un peu du genre, si Dieu a décidé de toute façon... je peux bien croire, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il m'a choisi? Et s'il ne m'a pas choisi, moi? Et ils vont prendre ça comme excuse pour ne pas venir à Christ. Mais ça ne va pas. Essayez de penser, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir comme ça? On ne peut pas réfléchir comme ça parce que c'est chercher à savoir ce que Dieu ne nous a pas révélé, plutôt que d'obéir à ce qu'il nous a révélé, à savoir, dans ce passage-là, qu'il nous a élus en Christ. Et vous allez voir tout d'un coup pourquoi j'ai tellement insisté que toutes ces bénédictions sont en Christ. Il nous a élus en Christ. Et ça fait toute la différence. Je vous explique. Dans le livre du prophète Ésaïe, qui est écrit des centaines et des centaines d'années avant la naissance de Jésus, Dieu annonce la venue du serviteur de l'Éternel, de son serviteur, qui va venir pour sauver son peuple. Et voilà ce qu'il dit en Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon élu, qui a toute mon approbation, j'ai mis mon esprit sur lui, etc. etc. » Et vous vous rappelez peut-être que Jésus prend ce verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, et puis il se l'applique à lui-même. Il dit « C'est moi le serviteur de l'Éternel, c'est moi que Dieu a choisi, c'est moi l'élu de Dieu » avec un E majuscule. Autrement dit, il y a un homme dans l'histoire dont l'élection n'est pas un mystère. Et c'est Jésus. Et pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que plutôt que de chercher à essayer de discerner le décret d'élection secret de Dieu, cherchez l'élu que Dieu nous a révélé, cherchez Christ, embrassez Christ. En lui, l'élection, elle n'est pas un mystère. Elle n'est plus un mystère. Dieu l'a choisi, et si vous êtes en lui, il vous a choisi aussi. Et en lui, une chose de plus, l'élection n'est plus ce qu'elle peut nous apparaître parfois, c'est-à-dire peut-être un choix arbitraire ou froid ou distant de Dieu. C'est tout le contraire. C'est l'étreinte chaleureuse du Père pour son Fils, qui a toute son approbation, qui a toute son affection. Et si vous êtes en lui, c'est la même étreinte pour vous. Dieu vous embrasse de la même manière. Nous ne l'avons pas choisi, mais Dieu nous a choisi en choisissant son Fils. Comprendre ça, ça devrait changer beaucoup de choses dans notre vie, mais ça devrait surtout nous amener à l'humilité. Ça devrait nous amener à l'humilité. L'élection divine, c'est vraiment, elle est parfaitement libre. Elle anéantit tout notre mérite. Toute œuvre ou vertu qu'on croit pouvoir présenter pour justifier le choix de Dieu, c'est loin. Rappelez-vous ce que Paul dit ailleurs en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous sentir à la hauteur de votre appel en Christ? De simplement être mis face à votre faiblesse dans ce que Dieu attend de vous? Ça peut être que ce soit par votre manque d'assurance dans le témoignage auprès de vos amis, que ce soit parce que vous réalisez que Dieu vous a peut-être placé dans un endroit et que vous devriez être un témoignage par votre comportement, mais vous dites que, à bien des égards et bien souvent, vous êtes plus un contre-témoignage qu'autre chose. Que ce soit votre manque de discipline ou d'assiduité dans la lecture de la parole, dans la prière, que ce soit votre manque de patience envers votre conjoint, le fait que vous n'êtes juste pas le partenaire que vous devriez être. Est-ce que vous n'arrivez pas simplement souvent de réaliser que vous n'êtes pas à la hauteur de l'appel de Dieu? Bien, rassurez-vous, c'est précisément pour ça que Dieu vous a choisi. C'est précisément parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Nous sommes les choses faibles, nous sommes les choses folles, nous sommes les choses viles, celles qu'on méprise, qui ne sont rien. Et c'est précisément des gens comme ça que Dieu a choisi. Qu'il a, pour reprendre les mots de Paul, qu'il a prédestiné à l'adoption. Et vous voyez ce changement de statut de ceux qui sont rien, et on n'est rien. Hors de Christ, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Mais en Christ. Ce changement de statut de ceux qui sont rien à ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu l'a déterminé précisément pour que personne ne se glorifie. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction extraordinaire de voir cette première bénédiction-là, l'élection inconditionnelle de Dieu? Il n'y a rien en nous. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction extraordinaire de savoir que c'est pour aucune raison en nous-mêmes que Dieu nous a choisis, et que même plus, c'est précisément parce qu'il n'y a rien en nous qui justifie un tel choix que Dieu nous a choisis? Ça change toute la manière de vivre notre vie chrétienne. Si on regarde la suite, quand Paul parle de la vie d'église, ça change tout, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vivre avec un masque devant les autres. On n'est rien. Et puis on peut vivre simplement avec courage, en disant la vérité avec amour aux autres, en sachant que, voilà, on est en Christ, qu'il nous a choisis tel qu'on est. On peut dire la vérité sur nous-mêmes avec amour, en sachant aussi qu'on n'a pas à se cacher derrière un masque. On est ce qu'on est, et c'est précisément parce qu'on n'est pas grand-chose que Dieu nous a choisis. C'est la première bénédiction qu'on voit ici, l'élection inconditionnelle de Dieu en Christ. Je passe à la deuxième, la grâce irrésistible de Dieu en Christ, c'est les versets 6 à 10. Et on va les relire et prêtez attention pendant la lecture, vous allez voir qu'à trois reprises, Paul utilise le même mot, grâce. Verset 6, il nous a adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, ou dont il nous a fait grâce en son bien-aimé, c'est le même mot une deuxième fois. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc on quitte l'éternité passée pour voir ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et là, Paul n'a qu'un mot à la bouche, grâce, 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 une grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. De deux manières, particulièrement ici, par la révélation qui est en Christ et par la rédemption qui est en Christ. Premièrement, Dieu nous fait grâce en nous révélant le grand mystère, verset 9. Le mystère de sa volonté. Alors un mystère dans la Bible, c'est pas un puzzle où vous avez la moitié des pièces qui ont été mises en place, l'autre qui manque, où c'est un peu mystérieux, on ne sait pas quelle est l'image. C'est pas ça un mystère dans la Bible. Un mystère dans la Bible, c'est simplement quelque chose qui était voilé pendant un temps et que Dieu maintenant nous révèle, qu'avec la venue de Christ est maintenant parfaitement révélé. Il n'y a plus rien de mystérieux à ça. Vous pouvez penser à l'histoire humaine jusqu'à la venue de Christ, un peu comme un chantier de construction, un bâtiment en construction. Vous avez déjà vu ça, quand un bâtiment en construction, il y a un échafaudage tout autour, souvent vous avez des palissades qui vous empêchent d'approcher. Et du coup, quand vous êtes là, vous pouvez même pas voir ce qu'il y a derrière. L'échafaudage, ça voile complètement le bâtiment. Alors vous avez peut-être une vague idée de la taille, de la forme que le bâtiment va prendre, mais c'est tout. Et la révélation de l'Ancien Testament jusqu'à Christ, c'est vraiment comme cet échafaudage. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour la construction du plan de Dieu, mais c'est temporaire. Caché derrière l'échafaudage, Dieu a développé son plan. Le plan éternel de Dieu était en train de prendre forme, mais avec la venue de Christ, l'échafaudage a été enlevé et le mystère se tient devant nous, révélé. Quel est ce mystère? Verset 10. C'est que Dieu a envoyé son Fils afin de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors, le verbe réunir, il n'est pas faux, mais ce n'est pas super utile. C'est un peu trompeur. La plupart des commentateurs modernes sont de plus en plus unanimes pour dire que le verbe grec inhabituel qui est utilisé ici est tiré d'un mot qui veut plutôt dire le point principal, ou le résumé, ou le dénouement. Je vous donne juste un exemple. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir passé 7 chapitres où il a dit justement que la révélation de Christ est supérieure à la révélation de l'Ancien Testament, que Christ est supérieur à Moïse, qu'il est supérieur au souverain sacrificateur, etc., il arrive au chapitre 8, verset 1, et il dit ceci: « Or, voici le point capital de ce que nous disons. » C'est le même mot, le point capital de ce que nous disons. « Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il amène tout ce qu'il a dit dans les chapitres précédents à son apogée, au point culminant, au dénouement. Tout ce qu'il a dit est amené à son dénouement dans cette phrase. Et c'est exactement ce dont il est question ici. Au dernier jour, Dieu va tout résumer en Christ, il va tout ramener à Christ. Et ce sera le point capital de l'histoire, c'est le mot de la fin. Quand j'étais ado, j'aimais bien lire les romans d'Agatha Christie. Je ne sais pas si on avait lu quelques-uns, certains d'entre vous. Ça fait très longtemps que je n'en ai plus relu. J'aimais bien lire ça. Et vous savez comment c'est au début, c'est, en général, vous avez un meurtre. Et puis vous passez toute l'histoire, tout le roman à essayer de regarder dans les détails pour savoir qui c'est qui pourrait être le coupable. Mais toujours, vous êtes presque obligé d'attendre jusqu'à la dernière phrase, à la dernière page, pardon, ou presque, pour avoir le dénouement de l'histoire. Et puis, quand je reprenais le livre une deuxième fois, parce que ça m'est arrivé aussi de relire le même livre une deuxième fois, tout d'un coup, vous relisez les choses que vous avez déjà lues, mais vous arrivez à des passages où vous dites, tiens, des détails totalement insignifiants, vous n'avez pas du tout compris la première fois, vous n'avez pas du tout remarqué. Là, vous dites, ah, mais c'est pour ça qu'il a mis ce détail dans l'histoire. Parce que maintenant, vous savez, vous connaissez la dernière page. Et c'est vraiment ça qu'on a ici. C'est comme si Dieu, en envoyant son Fils dans l'histoire, nous a révélé la dernière page de son histoire. Une histoire qu'il a commencé à écrire dans l'éternité passée, qu'il achèvera d'écrire dans l'éternité à venir. Et de savoir la dernière page, ça change tout. Parce que tous les détails trouvent leur sens dans ce dénouement-là. Et même les détails qu'on ne comprend pas forcément maintenant, on sait qu'ils ont un sens à la lumière de ce dénouement-là. C'est Shakespeare qui disait, vous savez, cette phrase assez connue, lui, il disait que l'histoire humaine, c'est un conte plein de bruit et de tumulte raconté par un idiot qui ne signifie rien. Enfin, c'est une de ses phrases les plus connues. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde à notre vie, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, qui nous arrivent et on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu m'envoie ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Je donne un petit exemple personnel. Cette semaine, je devais rentrer de Washington en avion. Et puis, après une longue semaine de cours intensifs, j'étais vraiment fatigué. J'étais très content d'entrer à la maison. C'était bien, mais j'avais juste envie de rentrer. Et je suis arrivé à l'aéroport. Et puis, on m'a dit que mon avion avait 6 heures de retard. Que du coup, j'allais rater mes correspondances à New York, à Paris, etc. Et que mon avion devait être reporté de 24 heures. Et c'est pas grand-chose, mais franchement, j'étais énervé. J'étais frustré. J'avais envie de rentrer. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi? J'étais appliqué toute la semaine. J'ai besoin de rentrer. Il faut que je travaille pour dimanche. Qu'est-ce que. Et puis, pendant ces 24 heures, j'ai pris le taxi 3 fois pour aller de l'aéroport à l'endroit où je dormais et vice-versa. Et dans chacun de ces voyages, c'est pas que je suis doué pour ça, vraiment pas, mais à chaque fois, Dieu m'a totalement ouvert la porte pour que je parle de l'évangile à mon chauffeur et que je les invite à l'église. Alors, est-ce que c'était pour ça qu'il m'a fait rester 24 heures de plus à Washington? J'en sais rien, peut-être. Peut-être c'était simplement pour m'apprendre la patience. M'apprendre à compter sur lui et m'unir plus à Christ. Mais je suis sûr que vous pouvez penser, vous, à des situations dans votre vie, un peu du style, non? Soit des petits ennuis comme celui que j'ai vécu cette semaine, qui n'est pas grand-chose, ou des choses plus graves par lesquelles Dieu vous a fait passer. En général, quand on regarde en arrière et qu'on réfléchit à ce qui s'est passé, on peut faire comme moi quand je lisais mon roman et dire, ah, c'est pour ça. Parce qu'on connaît la fin, on sait où on va, et on peut mieux comprendre les détails de notre histoire, on peut mieux comprendre pourquoi Dieu nous a fait passer par là. Et même si on ne saura pas tous les détails, on ne comprendra pas tous les détails, même une fois qu'on a passé, même une fois qu'on est sorti d'une épreuve et qu'on regarde en arrière, on ne saura pas toujours pourquoi Dieu nous a amené ça, on sait que ça a un sens. Parce qu'on sait que l'histoire va vers quelque chose. Et que ce quelque chose, c'est Christ. Lors de sa venue, Jésus va amener toutes choses à leur dénouement. Et ce jour-là, pour nous qui avons été réconciliés avec Christ, ce sera le plus beau jour de nos vies. Parce que l'harmonie, la paix qu'on désire tant, ce sera réel, ce sera là. Et puis la domination sous laquelle on sera, la domination de Christ, qui sera notre chef, elle sera douce, parce que c'est la domination de notre bon berger. Donc pour nous, ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils seront aussi ramenés à Christ. Toute chose va être ramenée à Christ. Ils seront aussi ramenés à Christ, mais assujettis sous ses pieds. C'est le jour du jugement. Et si c'est vous ce matin, c'est une grâce que Dieu vous fait de vous donner un avertissement. Le jugement vient. Alors comment échapper à ce jugement? Comment être réconcilié et pouvoir attendre ce jour avec joie? Eh bien, rappelez-vous simplement le mot d'ordre de Paul dans ces versets. Grâce, grâce, grâce. Dieu nous a fait grâce non seulement par la révélation qui est en Christ, mais rapidement, deuxièmement, par la rédemption qui est en Christ. Paul nous parle de la mort de Christ au verset 7. Regardez, lorsqu'il dit que nous qui sommes chrétiens, nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. La rédemption, c'est un terme technique simplement qu'on utilisait pour parler du rachat d'esclaves pour leur libération. Dieu nous a rachetés de l'esclavage. De quoi est-ce que nous étions esclaves? Verset 7, c'est la suite du verset qui nous le dit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Tu nous rachètes de l'esclavage des péchés, de l'esclavage de la culpabilité des péchés, plus particulièrement parce qu'il est question du pardon que Dieu nous donne. Et là, on est au cœur de l'évangile, vraiment. Et j'ai juste envie de vous l'annoncer, tout simplement. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous méritons son jugement, la mort, l'enfer, c'est-à-dire loin de lui pour l'éternité. Mais Christ, qui ne le méritait pas, a pris ce que nous méritions, a souffert ce que nous méritions en prenant sur lui nos péchés. Et si nous sommes en lui, c'est-à-dire si on a mis toute notre foi pleine et entière en lui, qu'on considère qu'on réalise notre culpabilité face à ce Dieu et qu'on sait que le jugement vient et qu'on se dit ma seule chance d'être réconcilié avec ce Dieu, c'est par Christ et qu'on met notre confiance en lui entière. Alors en lui, Dieu nous pardonne et nous ne sommes plus coupables. C'est ça l'évangile. Nous avons la rédemption par son sang. C'est la croix qui change tout. Est-ce qu'on mesure la puissance de ça? Voilà Paul. Je l'ai dit au début, il est en fin de vie. Il n'a pas grand-chose d'autre à penser que sa vie. Il peut repenser à sa vie. Paul avait assassiné des gens à cause de son fanatisme religieux. Il avait persécuté, emprisonné, tué. Et probablement qu'après, quand il était devenu chrétien, il a connu des amis, des proches, des parents de ceux qu'il avait emprisonnés et tués. Comment est-ce qu'il a pu vivre avec la culpabilité qui devait être la sienne? Largement supérieure à la nôtre, sans doute. C'est ce qu'il nous dit ici. Paul savait qu'il était en Christ. Ce qui veut dire qu'un grand échange avait eu lieu. Ses péchés étaient enlevés, mais plus que ça, la justice de Christ lui était comptée à lui. Il avait la justice de Christ pour lui. Et c'est ce que tout ce passage nous enseigne, mais c'est que la coupe de justice de Christ, elle est pleine à ras-bord. Il n'y a rien qu'on puisse rajouter. C'est par grâce. Dieu a tout fait. Grâce, grâce, grâce. Et j'ai qualifié cette grâce d'irrésistible rapidement, simplement parce que Dieu réalise son plan de manière irrésistible, inévitable, certaine. Tous ceux qu'il a choisi d'adopter dans l'éternité passée, aucun d'entre eux ne manquera d'obtenir le pardon des péchés. C'est une grâce irrésistible. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans l'histoire, même pour vous-même, pas même vous. Et ça, quelque chose d'extrêmement rassurant. Voilà cette deuxième bénédiction. Plus rapidement maintenant, la troisième et dernière. On a vu quelle est l'élection inconditionnelle de Dieu en Christ. Sa grâce irrésistible. Troisièmement, l'héritage incorruptible de Dieu en Christ. C'est les versets 11 à 14. Et on va les relire encore ensemble. En lui, nous, et là Paul parle de nous les Juifs, vous allez voir pourquoi je dis ça dans un instant, en lui nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance, avons espéré, espéré en Christ. Donc vous voyez, ceux qui ont espéré d'avance en Christ, c'est qui? C'est les Juifs, c'est le peuple d'Israël. Verset 13, en lui... Vous aussi, sous-entendu, les non-juifs, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous avez vu, il passe du « nous » au verset 11, c'est-à-dire lui-même et ses compatriotes juifs croyants devenus chrétiens. Il passe du « nous » au « vous aussi » verset 13, ses lecteurs croyants mais d'origine païenne, pour aboutir au verset 14 à notre héritage, c'est-à-dire un héritage que ces deux groupes ont en commun. Ils ont été unis à Christ et du coup ils sont unis ensemble. Un même peuple avec un espoir commun, sûr et certain, l'espoir d'hériter la gloire de la vie à venir qui est promise dans l'évangile. Et ce peuple, c'est l'Église, c'est nous. Et donc Paul nous dit simplement deux choses, deux grandes bénédictions qui sont pour nous en Église ici. Et je terminerai par là, ces deux bénédictions pour l'Église. Premièrement, le peuple de Dieu est la propriété de Dieu. Le peuple de Dieu est la propriété de Dieu. Paul utilise des images ici, vous avez remarqué, il parle du sceau de l'Esprit. Comme les propriétaires de bétail vont marquer leur bétail au fer rouge pour montrer que ça leur appartient. Dieu nous marque, il nous scelle de son esprit. Mais l'image ne s'arrête pas là parce que Paul nous dit que l'esprit est aussi le gage de notre héritage, ou la garantie, ou le dépôt de garantie. Je suis en train de regarder plein d'annonces immobilières sur Internet parce qu'on est en train de chercher un appartement à Grenoble. Et quand vous regardez une annonce immobilière, vous avez toujours un prix à payer pour le dépôt de garantie. Justement, et c'est quoi le dépôt de garantie? C'est un prix à payer à l'agence, simplement pour que, j'imagine, eux soient sûrs que vous êtes vraiment intéressés, et que surtout que vous soyez sûrs que l'appartement vous est bien réservé. L'Esprit nous marque comme la propriété de Dieu, et il nous assure le salut, l'héritage, la gloire à venir. Alors vous dites peut-être, c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce que je peux être sûr, moi, que j'ai été scellé du Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux avoir cette assurance? Parce que peut-être que vous êtes en train, peut-être qu'il vous arrive de douter de votre salut. Peut-être que vous êtes en train de passer par un temps qui est un peu plus difficile. C'est dur de prier. Vous n'avez pas l'impression de vous sentir proche de Dieu dans vos prières. Vous passez peut-être par un temps de sécheresse spirituelle et vous dites, mais est-ce que vraiment j'ai cette assurance-là? Comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance? C'est ce que Paul nous dit au verset 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez cru et vous avez été scellés. C'est directement. Vous avez cru et vous avez été scellés. C'est la même chose. Autrement dit, c'est pas comme s'il y avait. On croyait dans un premier temps et puis qu'on était une sorte de catégorie chrétien, un peu une basse catégorie chrétien, où on ne pouvait pas vraiment être sûr de notre salut et puis qu'il fallait avoir une seconde expérience, une sorte de baptême de l'esprit qui ensuite nous assurait, qui nous donnait une assurance pleine et entière et ça. Non, Paul nous dit, nous avons cru, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si vous croyez en Christ, ça peut être simplement, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça peut être aussi simple que ça. Mais si vous croyez en Christ, vous avez été scellés. Vous appartenez à Dieu dès aujourd'hui et pour toujours. C'est un héritage incorruptible parce qu'il est éternel. Il est certain. Ça, c'est la première chose. Le peuple de Dieu est la propriété de Dieu. Deuxièmement, le peuple de Dieu vit pour la gloire de Dieu. C'est une application de ces derniers versets, mais en fait vraiment de tout le passage. Parce que regardez. À trois reprises, Paul mentionne la gloire de Dieu au verset 6 déjà. Il dit, vous avez été adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce. Et puis verset 12, nous avons été mis à part afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et puis verset 14, Dieu nous a acquis pour célébrer sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire que Dieu a fait tout ça. Je me demande comment est-ce que vous envisagez votre vie? Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Si vous regardez aux mois, aux années qui viennent, quels sont les objectifs que vous fixez? Fonder une famille, acheter une maison, terminer vos études, profiter de la retraite. Est-ce que glorifier Dieu en fait partie? Même plus, est-ce que glorifier Dieu est l'objectif qui donne sens à tous les autres? Je dois confesser que pour moi, j'ai bien souvent toutes sortes d'objectifs qui sont pas mauvais en eux-mêmes, qui sont plutôt bons, qui sont louables en eux-mêmes, mais qui n'ont pas en vue comme but ultime la gloire de Dieu, qui ont pour but simplement, je sais pas, de me rendre la vie plus facile, rendre la vie plus agréable ou de remplir simplement mes désirs, de contenter mes désirs. Quel est le but principal de votre vie? Quel est le but principal de l'homme? Le catéchisme de Westminster, qui est un des plus grands catéchismes de la foi réformée, répond: le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui sans cesse. Et vous voyez, je me dis qu'en fait, c'est peut-être ça la plus grande bénédiction de toutes celles qu'on a vues ce matin. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne en Christ. Il a tout fait, il nous a élus, il nous a adoptés, il nous a rachetés, il nous a réconciliés, il nous a scellés. Il a fait tout ça pour que nous puissions faire ce que nous ne pouvions pas faire avant, quand nous étions dans le péché, pour que nous puissions faire ce qu'on a été créé pour faire, ce qu'il nous a fait pour faire, adorer, l'adorer. C'est ça qui est au plus profond de nous. Et je me dis, c'est finalement la plus grande des bénédictions parce que Dieu en Christ nous permet enfin d'être pleinement humains et d'être selon le plan qu'il avait pour nous de toute éternité. Il n'y a rien de plus beau pour nous vraiment. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ce qui est à Christ, si vous êtes en Christ, si vous êtes chrétien, tout ce qui est à Christ est à vous et rien de ce qui est en Christ ne vous est refusé. Je termine juste en attirant votre attention sur les paroles du chant qu'on va chanter maintenant. C'est Compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce chant? Et il m'est venu en tête pendant que je préparais le message ce matin. Et je ne sais pas si c'est parce que On le chante souvent dans les milieux chrétiens avant qu'on mange le repas, en tout cas c'était le cas dans ma famille. Mais à chaque fois que je chantais, je pensais aux bienfaits, ce qui était sous la table, au beau temps, à la famille, à la santé, je pensais à ces bienfaits-là. Et vous comprenez pas mal, c'est bien de remercier Dieu pour ces bienfaits-là, tous les bienfaits qu'il me donne, les bienfaits matériels aussi. Mais je me disais, mais finalement, de penser qu'à ces bienfaits-là, c'est un peu être comme, c'est C.S. Lewis qui dit, être un peu comme ce jeune garçon qui se contente de construire des pâtés de boue à côté d'une flaque plutôt que d'aller construire des châteaux de sable au bord de la mer simplement parce qu'il ne sait pas ce que c'est une plage. On se contente de peu finalement. Et j'ai relu le chant et je me suis dit, mais en fait, ça ne parle pas du tout, tant que ça, en tout cas, des bienfaits matériels qu'il nous donne. Ça parle exactement de ce que Paul est en train de nous parler ici. Et avant de chanter ce chant, je vais simplement vous lire les paroles. Et pendant que je les lis, ces paroles, pensez à tout ce qu'on vient de voir dans ce passage, tout ce que Dieu nous donne en Christ. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. C'est le 336.
Chaque jour, répand sur toi la richesse.